Vous écoutez RTL.
RTL Soir, on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Absolument, on refait le monde jusqu'à 20h. Alors, ils étaient très très bruyants pendant la pub. Je pense qu'ils vont être très bruyants ce soir encore. Elisabeth Lévy, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédactrice en chef de Causeur. Olivier Mazerolle.
Hein.
Non.
Ouais, bonsoir.
Rebonsoir.
De Causeur, hein, pas de Closeur.
Non, j'ai dit Causeur.
Ah bon, j'ai entendu Causeur.
Non. Bah, ouvrez les oreilles, Elisabeth Lévy.
En pas des désirs pour des réalistes.
Voilà.
Incroyable. Alexandre Malafaye, président de Sinopia, bonsoir à vous. Et Roland Quayrol, politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Benoît Galeret, bien sûr, avec nous pour toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Le premier sujet que je vous propose, c'est Christophe Castaner, le premier flic de France, contre les bandes, parce que ce sont les mots du jour. Alors que les rixes opposant des bandes de jeunes se multiplient, des jeunes souvent mineurs qui sont multipliés ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur passe à l'action. Il est allé sur le terrain aujourd'hui et il entend mener un combat sans faille contre les bandes et contre la violence qui aujourd'hui semble devenir une espèce de sport national. Je ne laisserai pas des jeunes de bande devenir les maîtres d'un quartier et terroriser un quartier, a-t-il expliqué. On va vous écouter sur ce sujet-là. Il promet des policiers spécialisés, de nouvelles modalités d'intervention. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas? D'abord, qu'en disent les réseaux sociaux et nos internautes? Benoît.
Réaction mitigée quand Christophe Castaner parle sur Twitter d'apporter une réponse immédiate et concrète. Il évoque à Dominique le style Pasqua de la grande époque, mais Jean-Marie Tempère. Il demande juste une cartographie mètre carré par mètre carré. Des jeunes meurent. La réponse de Castaner, c'est un pauvre PowerPoint en couleur. Dallaire rappelle lui que dans le 19e arrondissement de Paris, 28% des moins de 25 ans sont au chômage, 10% déscolarisés, sans qualification. Il faut prendre les problèmes à la racine, dit-il, plutôt mettre le paquet pour lutter contre les inégalités dès l'enfance. Ouais, sinon il y a la guillotine, ça marche super bien, grince Vincent devant cette réponse sécuritaire, dit-il. Faut taper sur la table, monsieur Castaner, soyez courageux, applaudit au contraire Pascal. Il faut interpeller ces petits cons et les faire travailler à la ville, balayer les rues, s'occuper des personnes âgées, etc. Chisto est d'accord, mais il craint que ce ne soit de la com, que de la com. Bien sûr, dit Gab, parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de bande de jeunes mineurs, peut-être, ils se battaient jamais. Mathieu le dit carrément, il ne veut pas plus de police, c'est encore la bande qui fait le plus de morts, selon lui. Dan concède, lui, qu'il faut plus de policiers à pied au quotidien dans les rues, mais surtout plus de moyens pour les clubs de prévention, les éducateurs, ceux au contact des jeunes, afin de prévenir les rixes entre bandes dans ces quartiers.
Voilà, internaute très inspiré, évidemment, sur le sujet. Comme ou pas, Elisabeth Lévy?
Enfin, écoutez, sauf à imaginer que Castaner soit un génie de l'ordre et de la sécurité, il n'a pas pondu en 3 jours ou en une semaine des idées mirifiques sur la question. Non, j'étais quand même frappée par celui qui a dit, vous dites qu'ils étaient inspirés, il y en a qui sont quand même inspirés bizarrement. Celui qui dit la police qui fait, la bande qui fait le plus de morts, c'est la police, est curieusement inspiré, mais il y a un peu aussi, ça existe dans la société, c'est pour ça que je voulais le relever. Je ne sais pas si, enfin, en tous les cas, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il n'a pas sorti ça de son chapeau. Simplement, il y a une chose qui me paraît là-dedans, une idée qui, je crois, traîne depuis longtemps, c'est l'idée de quadriller les cages d'escalier. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il faut des flics qui connaissent ces quartiers, mais d'un point de vue policier, pas comme animateur socioculturel, on s'en fout de ça. Qui ait des indiques, et que quand il se passe un truc, qu'ils sachent immédiatement qui a fait quoi, où sont les gens. Ça veut dire mettre vraiment des gens qui fassent des RG, quoi. Je veux dire, si on fait pas ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'après, les gens s'évaporent dans la nature, parce que vous envoyez des mecs en uniforme patrouillé en disant alors machin, vous l'avez vu, si vous voulez, personne ne vous dira jamais rien. Donc il y a un problème énorme de renseignement. En plus, ça peut servir en même temps, parce que ce sont souvent les mêmes endroits, pour le terrorisme et pour la délinquance. Si vous voulez. Donc moi, je pense que oui, ça c'est. Mais maintenant, je ne sais pas. Je sais pas comment on peut mettre ça en œuvre. Je pense que ça demande vraiment, pour le coup, de faire du renseignement à l'ancienne.
Roland Quayrol.
Écoutez, d'abord je tire mon chapeau à Monsieur Castaner, parce qu'il nous a dit qu'il y avait deux fléaux contre lesquels il fallait lutter, la violence des bandes et le narcotrafic. Vous savez, très peu de jours au ministère de l'Intérieur, il a déjà compris quels étaient ces deux objectifs que nous découvrons en l'écoutant.
Roland qui fait du Coluche, c'est quand même, c'est à remarquer. Hein.
Moi, je trouve ça assez drôle, excusez-moi.
Cela dit, quand on aura le plan complet, ça sera un plan Castaner-Blanquer, et donc c'est censé répondre aussi à l'objection de certains internautes. Il y aura aussi un plan prévention, mise au travail, suivi scolaire, etc. Ce que nous dit aujourd'hui Castaner, Elisabeth vient de le dire, c'est d'abord cette histoire de mètre carré par mètre carré, une cartographie permettant de suivre cage d'escalier par cage d'escalier. Je doute qu'a priori ça fasse grand peur aux bandes aujourd'hui, mais c'est un instrument qui pourrait être extrêmement utile à la police. Et il dit en même temps, ce qui va dans le sens que vient de dire Elisabeth, qu'il y aurait des moyens supplémentaires, et en termes de renseignement, et en termes d'effectifs policiers, il en a notamment annoncé à quelques-uns pour la Seine-Saint-Denis dès cette année. Voilà, il y a donc derrière un plan qui va être aussi quantitatif. Moi, en tout cas, j'attends de voir.
Comme un plan qu'il va être obligé de faire maintenant qu'il a dit qu'il existait.
Comme tout le monde. Mais voilà, maintenant qu'on nous annonce un plan, bah, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas... J'ai vu que je ne sais plus quel homme politique de droite, M. Retailleau, je crois qu'il existe, s'en est pris à la naïveté de Christophe Castaner. Là, au moins, dans les propos qui annoncent ce plan, ça ne me semble pas de la naïveté.
Alexandre Malafaille ou encore Olivier Mazerolles, est-ce que on a besoin de ces policiers spécialisés justement pour trouver une solution?
On a surtout besoin de moyens et il faudra qu'on soit très clair sur les moyens parce qu'il faut rappeler juste un chiffre, 91% du budget de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, c'est de la masse salariale. Donc il y a très peu de marge de manœuvre qui sont allouées à des équipements, à des renforts, de la technique. Donc voilà, il faudra vraiment regarder tout ça très près ce qui est mis dans ce budget, sachant qu'il y a eu déjà des annonces, on nous a annoncé 3% d'augmentation pour l'an prochain, donc où est-ce qu'on va prendre tout ça? Je pense qu'il faut regarder. Après, qu'on veuille être très précis et très efficace ou qu'on nous ressort des grandes formules à la Nicolas Sarkozy, parce que faire du quadrillage mètre carré par mètre carré, cage escalier par escalier, ça rappelle un peu le Karcher. Donc on verra, là encore, il faut être très prudent. Et en tout cas, tout ça confirme. Enfin, moi je le prends de la même manière.
C'est
la technique policière. On verra, là encore, il faut être très prudent. Et après, je voudrais rappeler une chose extrêmement importante, c'est que tant qu'on n'aura pas dans ce pays associé la problématique police à la problématique justice et qu'on restera avec des traitements séparés des problématiques, là en l'occurrence on a affaire à quoi? On a affaire à des jeunes qui sont influencés par des boobas et des autres, j'allais dire d'autres abrutis, qui se battent, qui mettent ça en scène, qui sont influencés par les jeux vidéo, qui n'ont plus de repères.
Enfin, qui sont surtout influencés par le fric qui gagne avec le trafic de shit quand même.
Sans aucun repère, d'accord, mais c'est pas que ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de notion de bien et de mal, avec des jeunes qui sont entre 10 et 15 ans, parfois même moins, et que l'arsenal judiciaire n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas les moyens de travailler sur ces questions-là aujourd'hui. Donc tant qu'on fera, voilà, on va dire, de l'identification, du repérage, mais que derrière, la machine ne sera pas pensée dans sa globalité, le problème restera posé dans son ensemble de la même manière. Mais
surtout quand la justice préfère faire de la prévention que de la répression.
Il y a un problème de continuum entre la sécurité et la justice. Tant qu'on ne traite pas de manière globale, on continuera à avoir des problèmes.
Olivier Mazerolles. Bien entendu, ce n'est pas uniquement une question de police, c'est une affaire qui concerne toutes les strates de la société, les familles, l'éducation nationale, la justice et la police, évidemment. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien traité du tout. Là, on a un ministre. On peut se foutre de sa gueule, hein. C'est toujours facile de dire « Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ce type qui débarque et qui, en 3 jours, découvre la Lune ?» Non, il dit des choses sensées. Voilà, il a au moins le mérite de prendre rendez-vous avec l'avenir. Il nous dit « Voilà quel est mon objectif. » Moi, je ne sais pas s'il pourra l'atteindre. Et vous avez tous raison, il faut des moyens considérables pour cela. Est-ce que le budget va être à la hauteur ? Rien ne le prouve. Est-ce qu'il y a les hommes formés dans la police pour amener ces renseignements? Rien ne le prouve. Mais au moins, il dit, écoutez...
Aussi, ils ont prévu un plan de formation des policiers.
Bon, voilà. Mais maintenant, il dit au moins, voilà, je suis ministre de l'Intérieur, je prends cet engagement. Eh bien, chiche! Alors, encore une fois, on peut se foutre de sa gueule. Moi, je suis plutôt de l'avis de dire, écoutez, monsieur le ministre, ok, vous nous avez fait une annonce, maintenant, rendez-vous dans 6 mois, dans 8 mois, on va voir ce que ça donne.
Elisabeth Lévy, avant la pub.
Pour là-dessus, l'intérêt, au moins, c'est de ne pas nous faire le violon habituel sur le fait que tout est mort à cause de la police de proximité et que c'est en mettant des gens qui fliquent en vélo, qui sont là pour le vivre ensemble, que tout va aller bien. Au moins, si vous voulez, il comprend qu'il faut traiter la question à un niveau policier, simplement. Moi, je ne sais pas très bien exactement ce qu'on appelle bande, en fait, dans le vocabulaire policier. Et je ne sais pas si c'est ça l'ensemble du problème qu'on a. Si vous voulez, je ne me rends pas bien compte de la chose.
Après, c'est lié effectivement à l'évolution de la société, avec la société de consommation, les habitudes aujourd'hui qui sont prises de dire j'ai envie de faire quelque chose, donc je le fais.
Enfin, c'est lié à la crise de l'intégration, quand même, aussi.
Il y a effectivement une déperdition de valeurs très simples. Hein. Qu'est-ce que c'est que la mort, la vie, tout simplement? Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur.
Oui, pour certaines personnes, ça n'a plus de signification.
On fait une pause, il y a plein de choses à dire. On vous retrouve dans un instant pour la suite de On refait le monde. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et avec Elisabeth Lévy ce soir, Olivier Mazerolle, Alexandre Malafaille et Roland Quirol. Je voudrais qu'on prolonge ce débat sur Christophe Castaner, donc le ministre de l'Intérieur qui s'en prend aux bandes aujourd'hui, qui leur déclare la guerre. Est-ce qu'il faut lier tout cela à l'éducation nationale? Je crois que c'est Roland Quirol qui disait tout à l'heure, ça sera un plan Castaner-Blanquer. Est-ce qu'il faut aussi être plus sévère, mettre pourquoi pas des policiers dans les écoles françaises aujourd'hui, Roland?
Ah, ça, je ne suis pas absolument sûr qu'il faille mettre des policiers, parce que ça posera beaucoup de problèmes avec le personnel de l'éducation nationale et avec les enfants eux-mêmes. Non, mais je crois qu'on peut en tout cas aller plus loin dans la volonté, mais Blanquer l'a déjà exprimé de son côté, de faire régner plus de discipline dans les établissements où il n'y en a pas. Et les quelques expériences qui ont été faites depuis la rentrée par Blanquer semblent montrer que ça marche. On peut le faire.
Il y a ça, et pardon Elisabeth, mais j'aurais insisté sur l'enseignement lui-même. Qu'est-ce qu'il dit, Blanquer? Il dit l'école est là pour apprendre à lire, à écrire, compter et à respecter autrui. Voilà. C'est donc peut-être aussi cet aspect de l'enseignement qui est important, ce qu'on appelait la morale dans le temps. Bon, c'est désuet, la morale. Eh bien, apprenons simplement à respecter autrui. Mmh. Voilà. Voilà, c'est la part de l'éducation nationale.
Elisabeth Lévy. À l'école, si vous voulez, ou en matière de délinquance, il y a une demande dans la société de plus de fermeté. Il y a une demande d'autorité à l'école. Les gens veulent que leur gamin rencontre des limites, si vous voulez.
Le hashtag pas de vague montre bien.
Le hashtag pas de vague, si vous voulez, où on a demandé aux profs pendant des années, surtout.
L'omerta complète.
Où ça a été l'omerta. Les gens, en réalité, si vous voulez, il faut que l'institution, quelle qu'elle soit, soit derrière. Et j'ai déjà cité ici ce chauffeur de bus qui a été sanctionné parce qu'il avait, il avait collé une claque à un gamin, si vous voulez, qu'il avait insulté après avoir failli se faire renverser. Et Marco avait d'ailleurs dit, moi je ne veux pas qu'on mette des claques à mes enfants. Eh bien, je pense qu'il n'aurait pas dû être sanctionné. On ne souffre pas aujourd'hui d'un excès de répression. Il peut y avoir des périodes, dans les années 50, j'aurais probablement dit le contraire, si vous voulez, qu'il fallait sanctionner les profs trop durs.
On ne souffre pas d'un excès de répression aujourd'hui.
C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc, je dis, on souffre d'un excès de laxisme, et les gens demandent plus de fermeté, y compris dans la justice.
Pour l'instant, ce dont on a le sentiment, c'est que la ministre de la Justice ne va pas dans ce sens-là. On parlait d'un
oui, ça
Blanquer,
c'est vrai, c'est possible.
Blanquer, Castaner, très bien, mais il faut y mettre Blanquer, Castaner et leur homologue de garde des Sceaux. C'est indispensable. Or, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la ministre de la Justice, aujourd'hui? Elle est en train de préparer une loi, qui est d'ailleurs en cours de quasi-discussion, où on va en fait faire en sorte que toutes les peines courtes ne soient pas exécutées, qu'on trouve systématiquement des solutions alternatives. Donc, en fait, la petite peine de prison, qui peut être très dissuasive, c'est-à-dire faire 15 jours, quand on a vraiment déconné, mais finalement, on est rattrapable, eh bien, cette peine-là, elle est terminée.
Je suis pas d'accord avec ça.
Moi non plus.
Soyons inventifs dans les sanctions.
Et la réparation. N'oublions pas qu'il y a des victimes.
Il faut que la réparation soit pénible.
Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de réparation.
La prison n'est pas forcément... Pour les petites peines, j'entends bien.
Ah oui, même jusqu'à 2 ans de prison, on ne fait pas de tôle quasiment en France.
Par exemple, le chauffeur de bus qui a pris une paire de baffes chauffeur de bus, la sanction... Je sais pas quelle bêtise il avait commise. C'est pas forcément la prison. La prison, on sait que c'est l'école de la délinquance. Trouvons des peines adaptées, qui ridiculisent celui qui a commis le délit aux yeux. Celui qui va en tôle aujourd'hui devient un héros. Okay. Donc arrêtons avec ça. Il faut au contraire qu'il soit ridiculisé aux yeux de ceux qui pourraient l'encenser.
Mais on ne peut pas supprimer la notion de prison sous prétexte que la prison ne fait pas bien son boulot aujourd'hui.
Mais attendez, vous ne parlez pas de la même chose. Personne ne pense qu'il faut mettre en tôle un gamin qui a insulté un prof. Il faut simplement qu'il soit réellement sanctionné. Il faut que ça lui coûte quelque chose. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord, Olivier, c'est que je pense qu'en France, il faut vraiment faire pour aller en tôle, parce que comme il n'y a pas de place dans les prisons, toujours...
Et donc il n'y a pas la peine qui compense le fait qu'on ne peut pas les mettre en prison.
Malgré tout, que c'est un élément qui ne marche pas dans le système. Donc
des
peines qui ne sont pas exécutées, et je ne suis pas sûr, si tu veux, que la prison ne soit jamais dissuasive.
Il faut s'attaquer à l'ordonnance de 45. En 2008, vous avez eu un rapport très intéressant, une commission qui s'appelait la commission Varinard, je crois, qui avait travaillé sur la question, qui avait fait 70 propositions pour justement effectivement adapter le dispositif à la réalité moderne, à la jeunesse actuelle, et personne n'en a rien fait. Une fois de plus, on a enterré le rapport.
Roland Carole,
moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il faut réprimer, tant qu'on peut réprimer, avec de bons moyens. Ce n'est pas une raison pour donner aux gens le droit d'enfreindre le droit. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même, on n'a pas le droit d'agresser physiquement des citoyens, même s'ils sont en train de commettre un délit. On n'a pas le droit. Le chauffeur de bus n'avait pas le droit de le faire.
Mais c'est un adulte et
Monsieur
un môme.
Est en légitime défense.
C'est un adulte et un môme.
Mais vous pouvez continuer à crier.
Pardon.
Je vous dirai très tranquillement qu'on doit respecter le droit, même si on est ici ou là dépositaire de l'autorité. Et la deuxième chose, par rapport à ce que vient de dire notre ami Malafaye, c'est que moi, je suis toujours assez méfiant devant cette idée. Quoi que vous fassiez, si vous ne les mettez pas en prison, ça ne marchera pas. Qui vous dit ça? Moi, je dis qu'en effet, l'idée de chercher des peines de substitution est une bonne idée. On ne peut pas.
Parfait. On n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur du flic, on n'a plus peur du magistrat, on n'a plus peur de la prison, on n'a plus peur de l'éducateur, on n'a plus peur de personne.
Pardon, Roland,
on n'a plus peur de rien et donc ça s'effondre.
Et dire vos énormités, laissez-moi dire les miennes. Laissez-moi dire les miennes. Moi, je crois qu'il est très important de faire en effet une expérimentation permanente de ce que la société peut imposer comme peine qui ne soit pas la prison. Nous n'avons pas les moyens techniques, matériels, de faire respecter les peines courtes en prison. Elles doivent donc, et là la ministre de la Justice a raison d'aller dans ce sens, et je pense qu'elle est suivie par beaucoup des personnels de répression, vers la recherche d'autres sanctions.
Le rappel à la loi, c'est pas très dissuasif. C'est pas de ça qu'il s'agit. Pour l'instant,
c'est d'un certain nombre de nouveaux travaux d'intérêt collectif. C'est de la possibilité de se servir de bracelet.
Vous avez parlé sur l'application des TIG, des travaux d'intérêt.
Vous avez l'occasion d'en parler.
J'ai parlé avec beaucoup de magistrats.
Donc c'est l'application qui pose problème.
Oui, je connais assez bien.
Non, mais
c'est pas. On fait une pub.
Attendez tout de même.
C'est pas aussi le
On fait le monde la suite dans un instant.
Ne jugez pas à l'avance.
On refait le monde sur RTL.
Avec Stéphane Carpentier.
Les voici de retour, Elisabeth Lévy, Olivier Mazerolle, Alexandre Malafaye et Roland Quirol, qui sont très très bavards comme promis, et Benoît Galeret qui suit les réseaux sociaux. On va changer de sujet avec cet étau qui se resserre sur Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. La justice a confirmé le renvoi de l'ancien président et des autres personnages de l'affaire devant le tribunal correctionnel en cause le financement de la campagne de 2012. L'avocat de Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il comptait contester cette décision devant la Cour de cassation. Je voudrais savoir si vous dénoncez ce soir un acharnement ou pas. D'abord les réseaux sociaux, Benoît, comment ça réagit du côté des internautes?
Bon, vous l'avez dit, hein, il va faire appel, il joue la Rolex, comme dit Alan, mais quand même, écoutez, quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Tweet d'un certain Nicolas Sarkozy, daté du 22 novembre 2014, on lui ressort bien sûr pour l'occasion. D'un autre côté, il n'est jamais passé devant le tribunal, si je m'abuse, défend Christian, mais les fans de l'ancien président, c'est vrai, se font discrets aujourd'hui à Cher, d'ailleurs, se demandent qui peut encore soutenir Paul Bismuth et toutes ses malversations. Lui reproche même d'avoir sali la France à jamais, financement libyen, à faire des écoutes, Big Malion, Karachi, Bettencourt, ce mec devrait être en prison. Nicole prédit qu'il va tomber comme Capone pour une erreur d'écriture comptable, vous verrez. Mais Bellu tout de même lâche, oubliez-nous avec votre chasse aux sorcières, ça change rien à notre quotidien. Si les candidats étaient libres de faire appel au financement privé comme aux US, tout irait beaucoup mieux. Alain enfin attend que Mélenchon prenne sa défense en parlant de justice politique. Alors je surveille le compte, hein, Stéphane, mais bizarrement pour l'instant toujours rien.
Voilà, Benoît qui suit les réseaux sociaux et ça fait réagir. Je vais écouter d'abord Olivier Mazerolle là-dessus.
Ben, écoutez, la justice, elle fonctionne. Simplement, moi, j'observe que dans l'ordonnance de renvoi, il est indiqué qu'il n'est pas établi que Nicolas Sarkozy a ordonné les fraudes ou qu'il en a été informé. Voilà, il a bénéficié du résultat de ces fraudes.
Ben, il suffit de ça.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est du foutage de gueule.
Après, ça c'est un premier point. Ensuite, effectivement, la défense de Nicolas Sarkozy, c'est de dire, mais sur les deux juges d'instruction qui étaient chargés de l'affaire, il y en a un qui a estimé que rien n'était établi, ce monsieur Van Drulbeek qui a priori n'est pas d'une indulgence particulière à l'égard des délinquants, et l'autre qui a considéré au contraire qu'il y avait renvoi. Bon, ben, c'est M. Tournaire. Ben, la procédure se poursuit. La cour d'appel a dit que c'était régulier. L'avocat de Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation, ce qui est son droit. Ben, écoutez, on va voir ce que va décider la cour de cassation.
Elisabeth Lévy.
Alors, moi, j'étais très désolée que Jean-Luc Mélenchon gâche une bonne cause, à mon avis, qui est de lutter contre les prémices de gouvernement des juges. Parce que je ne crois pas du tout au complot politique si vous voulez, certainement, ils sont naturellement plus lents, semble-t-il, pour un certain nombre d'affaires, comme Pénico, Los Angeles, Ferrand, ça va beaucoup plus lentement que pour Fillon ou d'autres, si vous voulez, mais je ne pense pas qu'il y ait derrière quelqu'un qui leur téléphone en leur disant « vous allez faire ci et ça », je pense qu'ils le font tout seuls. Il y a un hubris des juges, ils se prennent pour des personnages, si vous voulez, et ils tolèrent. Tout le monde est toujours scruté, les journalistes, enfin, les journalistes n'aiment pas ça, mais on peut quand même le faire, les politiques, etc. Mais alors, dès qu'on dit un mot sur les juges, alors là, ils montent sur leur petit poney, ils sont très susceptibles. Eux peuvent traiter les autres de cons, parce que dans l'affaire Tournaire, si vous voulez, il y a un internaute qui a dit, oui, puis, pardon, je me dépêche. Il y a un internaute qui a dit, puisque Sarkozy est si souvent devant les tribunaux, c'est donc qu'il est coupable. Ça, c'est génial. Si vous voulez. En réalité, il y a je ne sais plus combien de plaintes contre Sarkozy avec des dossiers assez minces. Il a été écouté, si vous voulez, au départ pour l'affaire libyenne où il n'y a quand même pas énormément de choses. Et ensuite, avec les filets dérivants sur Bettencourt, enfin, il y a un acharnement des juges, pas un acharnement politique, parce qu'ils font le même, à vrai dire, avec un certain nombre d'autres gens. Ils se prennent pour les gardiens de la démocratie. Moi, je demande qui va garder les gardiens. Et je trouve que là, c'est les juges qui sortent complètement du cadre. Je suis effaré par ça.
Alors, je pense le contraire. Je pense que dans une société où il n'y a plus de morale commune, nous n'avons pas les mêmes critères pour évaluer moralement les actions des gens, il nous reste, je dirais si j'y croyais, Dieu merci, le droit. Et je pense que les magistrats, ils sont là pour dire le droit. Oh. Et ils le disent, n'en déplaise à Elisabeth
Lévy. Sans idéologie,
Lévy,
donc.
Et quel que soit... Absolument, ils appliquent la loi.
Oh, ils appliquent la loi.
Ils appliquent la loi.
Sans aucun différentiel des uns avec les autres.
Y compris le
Quelle naïveté,
code de
Roland,
procédure
arrête.
Pénale, un texte
arrête,
que vous
Roland,
devriez connaître bien. Et ils ont beau tous, les politiques, prétendre qu'on s'acharne contre eux. La France Insoumise...
Mais on s'acharne pas de la même
le
façon.
Le Rassemblement National... Maintenant Sarkozy, il y en aura d'autres, assurez-vous, sur tous les bancs de l'Assemblée. J'attends la suite sur le Modem, sur les affaires lyonnaises de La République En Marche. Voilà, tout ça va
On
continuer.
On serait davantage convaincu s'il n'y avait pas eu le mur des cons.
Mais ça n'a aucun rapport, le mur des cons, c'est
ah
des
bon
types tout seuls dans un local syndical. Ça n'a rien à voir avec les juges rendant la justice.
C'est une
ils
blague.
Ont, ils ont le droit dans leur
c'est
local syndical.
Abus de faiblesse contre Sarkozy sur Bettencourt, enfin, c'était une vaste blague. Ils sont alliés à Mediapart et ils veulent se payer des puissants.
Vous avez le droit d'écrire des bêtises sur vos murs que vous ne direz pas à l'antenne.
Non mais c'est incroyable, incroyable.
Moi je crois que c'est très important, puisqu'on parlait du respect d'autrui, d'apprendre aussi à respecter la justice. Elle fait son travail, attendons que son travail
aucun
soit
problème,
fini
donc, aucune
dans
critique.
Chacune des affaires.
Alexandre Lafayette, Elisabeth,
j'en vois de pardon, moins pardon. En moins. Je pense que la justice, en effet, est de plus en plus autonome comme autorité par rapport au pouvoir politique. Et moi, je m'en félicite.
Vous êtes
la justice fait sans doute
extraordinaire.
Son boulot. C'est vrai que tous les partis sont concernés par des affaires. Et également, les juges font leur boulot quand il s'agit d'entreprises. Elles n'hésitent pas à mettre en examen M. Bolloré. Enfin, elles font un métier.
Plus ou moins vite.
Elles le font plus ou moins vite. Elles le font, mais ça dépend.
Les affaires sont plus ou moins compliquées.
Fillon, ça méritait de.
Non, mais il y a beaucoup de paramètres. Ah,
peut-être c'est une blague.
Peut-être
c'est
que
une
c'était
blague.
Utile
pour vous, mais pas
peut-être
pour.
Peut-être que c'était utile de mener tambour battant l'affaire Fillon parce qu'il y avait une campagne présidentielle. Après, on verra ce qui sortira des. Voilà. Et si à la fin il est condamné, on se dira qu'après tout, c'était peut-être pas idiot. Bon, on verra quand la justice sera passée. Mais le problème, en fait, c'est que dans une démocratie soi-disant moderne comme la nôtre, qu'on puisse avoir ce niveau de doute sur la justice, ça, c'est problématique. Et on a en fait un problème de fond en France, qui est ce problème d'inceste systémique, en fait, de collusion entre les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'entre le pouvoir politique et le monde médiatique, il y a beaucoup de collusion, y compris parfois des relations de couple un peu de proximité, qui font qu'il y a suspicion d'eux. C'est la même chose entre les grandes entreprises et la haute fonction publique, où on retrouve effectivement beaucoup de passerelles. Et c'est aussi la même chose avec la magistrature, où finalement la magistrature, à un moment donné, entre d'abord, le lien n'est pas clairement coupé entre le politique et la haute magistrature. Et on l'a vu avec l'affaire Urvoas-Solaire, où clairement, le ministre de la Justice est allé chercher une information précise par rapport à un politique. C'est quand même préoccupant de voir que ça peut se produire. Donc, de fait, il y a cette suspicion-là. Et en plus, oui, quand même, pardon, je crois qu'un corps aussi important que celui de la magistrature ne devrait pas être politisé, comme les militaires. Et là, aujourd'hui, c'est vrai quand même que la haute magistrature et la magistrature est très politisée, très syndicalisée, et avec souvent un équilibre. Non, mais très... Oui, mais quand même, c'est quand même une... posture, une vision de la France et des enjeux sociétaux qui sont très colorés et peut-être par trop et donc pas dans l'esprit d'une justice équitable.
Elisabeth, vous rajoutez des choses?
Oui, moi je suis frappée par le fait qu'en réalité ils se comportent, moi je ne crois pas que comment dire, ils sont politisés parce qu'il y a une sorte d'idéologie, mais je crois qu'ils sont justement autonomes, mais trop autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de toute critique. On ne peut, il y a une espèce, quand la justice s'abat comme ça, et moi je pense que dans le cas de Sarkozy, il y a quelque chose de dégueulasse, parce qu'à la fin, on va avoir que dalle, si vous voulez. Mais même, je comprends que Mélenchon, 12 perquises, pour 10 000 balles, 12 000 balles de liquide, et, enfin, c'est une blague.
Moi, je préfère qu'on attaque Sarkozy pour la Libye.
Donc les juges s'invitent en permanence dans le débat politique, et pour répondre d'une phrase à Roland, quand il dit qu'il n'y a pas d'idéologie, le premier président de la Cour de cassation, bien sûr qu'il y a de l'idéologie, vient d'expliquer que la France devrait se conformer, je veux dire, à l'avis du comité Théodule de l'ONU, qui trouve que notre loi Bourquin n'est pas terrible, et qui trouve qu'à Babylou, notre justice n'a pas bien jugés, eh bien, ils sont tellement multiculti, tellement soumis à tout le politiquement correct que maintenant, il faudrait qu'on s'adapte. Alors, me dites pas qu'ils n'ont pas d'idéologie, les juges.
Ça, c'était une phrase très très longue, Elisabeth Lévy. On vous retrouve dans un instant pour la suite et la fin d'Orfait le Monde. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Avec Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur, Olivier Mazerolle, éditorialiste à RTL, Alexandre Malafaille, président de Sinopia, et Roland Quirol, politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse. On a encore 2 minutes 30, donc on se fait un dernier tour de table, je voudrais avoir vos sentiments. Est-ce qu'on n'a pas justement l'impression quand même dans ces affaires, et dans cette affaire en particulier, Big Malion, Sarkozy, qu'avec tous ces recours à la justice, on repousse et on repousse et on repousse encore les échéances? Olivier Mazerolle.
Écoutez, tout le monde a le droit de se défendre. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Sarkozy? Moi, dans l'affaire Bettencourt, j'ai vu des comptes rendus de procès-verbaux d'instruction qui semblaient le condamner définitivement. Puis après, on a appris qu'en fait, ce qui était produit n'était pas exhaustif et qu'il y avait d'autres aspects dans le compte rendu.
Ah bon, dans le monde, qui le
dédouanait. Et d'ailleurs, finalement, il a bénéficié d'un non-lieu. Donc moi, je veux bien qu'on me raconte tout à l'heure, là, j'entendais les internautes qui disaient, mais il a déjà été condamné plusieurs fois. Ça n'est pas vrai. Mmh. Il n'a jamais été condamné. Personne voilà, bon. Ça. Et là, dans cette affaire, il le sera peut-être, j'en sais rien.
Roland Quirol.
Non, mais c'est clair, il y a un internaute qui disait, il joue la Rolex. Je l'ai trouvé plus joli qu'il joue la montre. Mais c'est vrai, et c'est vrai que la plupart des avocats, quand ils organisent la défense de leurs clients, essaye de gagner du temps avec l'idée que l'affaire devient moins visible, moins popularisée, qu'on va la régler de façon plus tranquille et si possible au mieux des intérêts de leurs clients. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mal qu'on vive dans un pays où on peut, en effet, profiter de la période de l'instruction, profiter du double degré de juridiction, aller éventuellement en cassation. C'est aussi une protection des libertés individuelles de pouvoir faire ça.
Alors, ils en usent,
et parfois peut-être qu'ils en abusent un peu, mais je dirais que c'est le mauvais côté des choses, mais qu'il faut l'accepter.
Alexandre, 10 secondes.
Mais c'est clair, c'est le cadre de l'état de droit, et ça, c'est une véritable chance. On vit dans un état de droit. En revanche, quand même, parce que ça ne concerne pas que M. Sarkozy, il y a un abus de toutes les procédures et de toutes les arcanes, les artifices qui font que vous avez, pour le quotidien des justiciables. Pour le quotidien des justiciables. Un nombre de mesures dilatoires qui visent à repousser les échéances judiciaires.
Non, mais
ça reste un vrai sujet, et il y a un abus et une perte de temps, d'énergie.
Non, mais pardon, on arrête.
Allez, vite, Elisabeth.
Une phrase, je trouve que le feuilletonnage, si vous voulez, dans la presse, l'alliance entre un certain nombre de journalistes, notamment de Mediapart, et d'un certain nombre de juges, si vous voulez, qui produisent des comptes rendus intéressés, c'est-à-dire vraiment sélectionnés, soit pour blanchir, soit pour accuser, c'est dégueulasse. Ça nous empêche de juger sereinement, et rien que pour ça, si vous voulez, on a le droit de critiquer les juges et de dire que ceux qui balancent à la presse charrient grave.
Moi, j'ai connu un avocat de Jacques Chirac qui disait volontiers on va réussir à utiliser tellement de procédures qu'il n'y aura pas de décision avant sa mort. Mais ils avaient tort.
On a refait le monde ce soir. Merci à vous. Dans un instant, Jacques Pradel sur la Première Radio France.
Vous écoutez RTL.